RCF.
C'est Grand Angle, bonjour. Un grain de folie, source de sagesse, eh bien c'est le thème de l'émission aujourd'hui préparée en partenariat avec la revue des Cahiers Croire. La folie, oui, est une épreuve, une dépossession de soi, un drame, mais nos petits déséquilibres ne sont pas à la mesure de nos grains de folie peut-être, et il ne faut pas parfois abandonner les lignes droites pour plus de créativité, de liberté, de vie. On va en parler avec mes invités. Sébastien Anthony, bonjour. Vous êtes prêtre assomptionniste, journaliste pour les Cahiers Croire, donc qui publie ce dossier ce mois-ci, La folie, une étrange sagesse, dans lequel vous signez plusieurs articles. Et on vous retrouve aussi de temps à autre pour les temps de méditation de l'Évangile du jour dans la matinale RCF avec Stéphanie Gallet. Mathieu de Villemorin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes marié, père de famille, président de l'association Schizo Oui, faire face à la schizophrénie. Vous êtes auteur d'un livre récent, Les Lunatiques, mon séjour chez les fous. C'est paru aux éditions Bayard. Vous allez nous raconter, eh bien, votre parcours. Et puis avec nous, Patrick Lemoine, bonjour. Alors, Patrick Lemoine, qui va nous rejoindre, qui sera en duplex du studio de Lyon. Il est psychiatre, auteur de nombreux ouvrages, je ne cite que les plus récents, Histoire de la folie avant la psychiatrie, paru cet automne, et puis La folle histoire des idées folles. Les deux ouvrages sont coécrits avec Boris Cyrulnik et sont publiés aux éditions Odile Jacob. Un grain de folie, source de sagesse, c'est le thème du jour du Grand Angle, et c'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Alors Mathieu de Villemorin, on va peut-être commencer cette rencontre par notre émission, par votre témoignage, à savoir qu'en 1982, mais vous êtes au Brésil, vous avez bien envie de faire le tour de ce somptueux pays, découvrir beaucoup de choses à découvrir, grand pays, et puis là, gros souci, racontez-nous.
Voilà. En effet, je pars en octobre 82 et 10 mois après, j'ai réalisé le tour du Brésil, mais ma nervosité a été mise à rude épreuve parce que le Brésil est un pays merveilleux, fantastique, mais c'est pas un pays de contraste, comme on dit parfois dans les guides touristiques. C'est un pays d'extrêmes, et les extrêmes se joignent, se rencontrent au coin de la rue. Je sortais d'une grande fête où j'avais eu à manger, à boire, nous dansions, et pour reprendre le bus et aller à mon hôtel, il y avait un pauvre air qui souffrait de la jambe et qui n'ira pas à l'hôpital parce que il n'y a pas droit et personne ne se prêtera caution. Et c'est vrai que c'est à Rio que me sont arrivés mon premier épisode psychotique. J'ai eu ce que la faculté appelle une bouffée délirante ou une crise de délire, et qui s'est caractérisée par un délire mystique, enfin délirant, mais je suis pas spécialement mystique, mais ça s'est vraiment
exprimé
de cette manière. Je me suis pris pour le sauveur du monde, ce qui n'est pas rien, sans jamais me prendre pour Jésus-Christ lui-même, mais j'avais cette mission de prévenir que le feu nucléaire allait nous tomber dessus et qu'il fallait se protéger en allant dans l'église la plus proche. Et j'étais en face du monastère dominicain de Rio de Janeiro, qui est dans un petit quartier qui s'appelle Leme. Et dans mon délire, l'aimé, c'était le véhicule lunaire qui est resté sur la Lune, d'ailleurs.
Après cet épisode, alors ça, on remonte, c'était en 1982, hein, donc j'imagine que vous rentrez en France, que les choses sont prises en charge petit à petit, ou vous vous rendez compte tout de suite qu'il se passe quelque chose d'anormal?
Alors, j'ai cette possibilité de me souvenir de tout. J'ai même écrit tout ce qui s'est passé après.
L'écriture est importante pour vous.
Elle a fait partie du voyage pendant tous ces 10 mois. Et donc, j'avais prévu de partir 12 mois. Un an, donc. Mais là, nous étions en fin juillet, début août, et les 83. Heureusement, j'avais souscrit une assurance mondiale assistance.
Rapatriement.
Par le biais de mon beau-père, j'ai pu bénéficier, en effet, d'un rapatriement sanitaire de première qualité.
Là, vous vous rendez compte, c'est en 1982, hein, donc ça fait quand même assez longtemps. Depuis, la maladie ne vous a pas lâché, même si vous la maîtrisez.
Alors, oui, j'ai rechuté 4 fois en tout. Enfin, la première crise en 82-83 au Brésil, et puis 3 rechutes. Une en 85, une en 88, et une assez récente en 2012. C'est quelque chose avec quoi je vis, oui, depuis plus de 30 ans, en effet. Mais c'est maintenant seulement que je bénéficie, disons, de ce regard introspectif et puis rétroactif. Je crois que cette folie m'a permis de... Enfin, aujourd'hui, d'être dans la meilleure partie de mon existence, finalement.
De l'avoir accepté, de vivre avec, mais de savoir ce qui se passe.
Bien, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans le creux de la vague, la souffrance est terrible. C'est une sorte, vous l'aviez dit, dépersonnalisation. Moi, j'appelle ça l'éloignement à soi. On est vraiment perdu. On est une sorte de petit ballot sur la mer agité et on maîtrise rien. Mais j'ai pu, alors, avec les moyens du bord aussi, travailler, pas tout le temps, mais j'ai eu une activité. J'ai eu une famille plutôt bienveillante. J'ai gardé des amis qui m'ont
qui vous ont
suivi, oui, qui m'ont. Chaque fois, je reconstruisais une vie possible, mais parfois les tensions étaient encore trop grandes et la crise survenait de nouveau.
Merci Mathieu de Villemorin de votre témoignage. On va revenir, hein. Vous allez intervenir au cours de cette émission. Simplement, Patrick Lemoine, vous nous avez rejoint, me semble-t-il.
Ah oui, bonjour. Depuis le début, vous savez, je suis un sujet du matin, donc génétiquement ponctuel.
D'accord, vous étiez là depuis le début, mais nous n'avions pas le retour. Voilà, donc vous êtes bien là. Je rappelle simplement que vous êtes en duplex des studios de Lyon. Vous êtes psychiatre, auteur de nombreux ouvrages. Vous allez pouvoir réagir au témoignage de Mathieu de Villemorin. Juste oui. Avant, Sébastien Anthony, choisir le thème « La folie » dans la revue des cahiers croire, expliquez-nous simplement ce que vous cherchiez et ce que vous avez peut-être découvert, notamment ce témoignage de Mathieu de Villemorin.
Alors effectivement, nous ne sommes pas des spécialistes, on se pose vraiment en journaliste, donc en interrogeant un sujet. Le terme de folie apparaît plusieurs fois dans la Bible. Alors il recouvre pas nécessairement et même pas du tout des maladies psychiques comme ça, entendu comme ça à tous les coups, mais le terme apparaît, il est même encouragé, Seigneur donne-nous des fous, c'est une prière aussi que l'on peut entendre dans la bouche notamment du pape Paul VI. Des comportements étranges ou étonnants mènent à la sainteté tout au long de l'histoire de l'Église, les folles en Dieu, etc. Voilà, donc ça nous a intéressé parce que effectivement, et le terme, et finalement associer ce terme à des comportements certes, mais aussi à un chemin de sainteté, à un chemin de salut, nous a intéressé. On a voulu le creuser, l'interroger, et puis aussi parce que ça n'a pas été beaucoup fait finalement, et qu'on s'est dit allons-y. On n'a pas on a essuyé quelques refus aussi de la part de certains spécialistes ou d'exégètes à qui on a demandé. Ils ont dit, oh là là, mais le sujet nous inquiète un petit peu. Et on a dit, bah justement, si le sujet inquiète, c'est qu'il faut en parler.
Et on est là pour ça. On est là pour ça aussi aujourd'hui. Alors Patrick Lemoine, donc je rappelais, donc un de vos ouvrages, c'était l'histoire de la folie. C'est le dernier, l'histoire de la folie avant la psychiatrie. Oui, l'utilisation du mot folie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler avec un petit parcours historique peut-être pour qu'on distingue bien entre tout ce qu'on peut mettre sous ce terme et puis la maladie psychique.
La folie, c'est un terme qui existe depuis la nuit des temps. Effectivement, dans la Bible, on retrouve à maintes reprises. Le fol au Moyen-Âge était également connu et protégé d'ailleurs, puisqu'il avait un insigne distinctif qui faisait qu'on lui devait une protection, on ne devait pas lui faire de mal, à tel point même que les bandits leur piquaient leurs insignes pour bénéficier de cette protection. Mais j'étais intéressé par ce que disait votre journaliste, à savoir que le 15 mai prochain, chez Odile Jacob, je vais publier un livre qui se penche sur la santé mentale de ceux qui ont changé le monde, et je pars du roi Saül, enfin des rois Saül, David, Salomon, je vais chez Bouddha, chez Jésus, et par exemple, chez Saül et David, le trouble bipolaire, pour le psychiatre que je suis, est absolument flagrant. Et Saül, même avec des traits délirants. Et Saül finit d'ailleurs par se suicider, comme malheureusement tant de bipolaires. Donc je crois que c'est un thème important et intéressant.
Comment on peut faire la part des choses, hein? Vous êtes aussi psychiatre, hein? Il y a des maladies qui sont bien identifiées, puis des troubles du comportement. Est-ce que la frontière, est-ce qu'elle est bien comme ça qu'on peut la poser? Expliquez-nous un peu.
Monsieur de Villemorin nous l'explique très bien finalement, puisqu'on part de l'exemple des bouffées délirantes, et on sait que cette manifestation qui succède toujours à des privations de sommeil, donc souvent après des voyages avec décalage horaire, le Brésil est un pays de fête, où effectivement on peut boire un peu plus, il y a aussi même certaines substances qui favorisent les bouffées délirantes, et une fois qu'on a fait une première bouffée délirante, eh bien on a une chance sur trois que ce soit sans lendemain, une chance sur trois que ce soit l'orée, le début de ce qu'on appelle un trouble bipolaire, donc ce qu'on appelait les maniaco-dépressifs autrefois, et une chance sur trois d'une entrée dans la psychose. Et c'est très important de savoir ça, parce que beaucoup n'osent pas arrêter le traitement, alors que s'ils font attention à ne plus jamais avoir de privation de sommeil complète, et à ne plus prendre de produits, on va dire, excitants, style caféine, etc., eh bien, il n'y a pas de risque de rechute.
Ça veut dire que
qu'on peut avoir une bouffée délirante sans être fou, c'est ce que je veux dire.
D'accord. Et ça veut dire aussi que les traitements sont des traitements médicamenteux ou aussi un accompagnement. Quelle est la part du psychiatre, du psychologue, du psychanalyste face à ces troubles?
Toutes les études concordent à savoir que un médicament seul fait beaucoup moins bien qu'un médicament accompagné d'une prise en charge psychothérapeutique. On sait que la puissance du médicament est décuplée par l'accompagnement. Donc c'est une chose tout à fait importante. Heureusement, sinon mon métier n'aurait plus de raison d'être. La psychanalyse en matière de psychose n'a pas vraiment grand-chose à dire. Freud, il n'a pas dit que des bêtises, hein, c'est pas ce que je veux dire. Il en a dit beaucoup, mais
il a
travaillé essentiellement sur la névrose. Je pense qu'il n'a vraiment rien compris à deux domaines, premièrement la psychose et deuxièmement la femme.
D'accord. Bon, voilà. Comme ça, c'est dit.
C'est dit. Hein?
Sébastien Anthony le disait à l'instant, poser la question autour, enfin, voilà, travailler le sujet de la folie a un peu inquiété, et vous parliez même de spécialistes. C'est vrai que même dans le grand public, Patrick Lemoine, pardon, cette question de la folie est difficile à aborder.
Eh oui, parce que le fou, c'est l'autre, hein. Si j'étais né 100 ans plus tôt, j'aurais pas été psychiatre, j'aurais été aliéniste. Aliénus, c'est l'autre. Or, l'autre fait toujours très peur. C'est toujours, d'ailleurs, on voit le malade mental en cas de crise qui est sacrifié en premier. On l'a vu pendant la guerre 39-45, où je vous rappelle, 250 000 malades mentaux en Allemagne, 50 000 en France ont été exterminés. Soit ils ont été gazés en Allemagne, soit ils sont morts de faim et de froid en France. Et on voit même dans l'Athènes antique, il y avait un rite qu'on appelait le pharmakeion, qui faisait que, en cas de crise, eh bien, on prélevait un ou deux autre, donc ça pouvait être un fou, ça pouvait être un esclave en fuite, un SDF, peu importe, et on le juchait sur un char qui drainait la ville de toutes ses humeurs pestilentielles. Ça durait toute une journée devant une foule en liesse, et à la fin de la journée, on le sacrifiait, comme si le fou était finalement le meilleur des boucs émissaires pour une société qui souffre.
Mathieu de Villemorin, ce rejet des autres vis-à-vis de vous, est-ce que vous l'avez senti à un moment ?
Eh bien, heureusement, j'ai une bonne nature et j'ai gardé ce côté un peu jovial et sympathique, j'espère. Mais j'ai pas ressenti trop ce rejet. En revanche, c'est vrai que parmi mes amis, il y a eu comme un tri. Ceux qui se sont avérés être la garde rapprochée, et puis les autres ont pris plus de distance. Et puis quand je cherchais du travail, quand je trouvais du travail, j'avais toujours des difficultés, disons, à me vendre ou à me proposer mes services. Donc j'ai pu travailler, mais bon, on peut dire des jobs alimentaires ou des jobs sous-qualifié, dans le sens où j'avais reçu une éducation assez traditionnelle, j'avais passé mon baccalauréat, j'avais fait quelques études supérieures sans les rattraper, mais le fait de travailler a quand même justement été très très thérapeutique dans ce sens-là. Au contact des autres, je pouvais le faire.
Et au contact des autres et de votre famille notamment, de vos amis. Les personnes, une fois que vous avez pu expliquer ce qui se passait, ont compris ? Ou il y a toujours une petite réticence vis-à-vis de ce qui est du domaine du psychique ?
C'est-à-dire que je n'expliquais pas grand-chose, j'étais assez pudique, mais c'est mon attitude elle-même qui révélait cet état, disons, d'être en deçà de la main. J'étais un peu plus rondouillet, difficulté un peu d'allocution parfois. Les médicaments me rendaient la gorge très sèche, donc je devais toujours avoir de l'eau près de... Donc c'était tolérable, ça allait. Il y avait pas trop ce côté rejet, mais quand j'allais mieux, quand j'avais un jour avec, ça se remarquait et on me le disait. Du coup, ça me renvoyait une meilleure image de moi.
Patrick Lemoine, c'est important ce côté, cet entourage, cette capacité à être plus ou moins inséré socialement.
Bah, tout à fait, c'est même essentiel. Mais la difficulté est que le vrai fou, si j'ose dire, avec plein de guillemets, c'est pas du tout Monsieur de Villemorin, c'est le schizophrène. Et un schizophrène, c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle discordant. Et discordant, ça veut dire qu'il est ambivalent, il est bizarre, il est détaché et il est impénétrable. Ce qui signifie qu'on est immédiatement mal à l'aise face à lui et que, comme il est en général extrêmement persécuté par son entourage, eh bien, il se retrouve très souvent seul. Et toute la difficulté du métier des psychiatres qui s'occupent de ce type de maladie est justement de les extraire de cette solitude. Rares sont les schizophrènes, d'ailleurs, qui gardent une famille, qui peuvent se marier, faire souche. C'est vraiment la maladie de la solitude, et c'est... Je trouve dramatique. On voit bien que M. de Villemorin a un excellent contact, qu'il a de l'humour, qu'il est capable de blaguer par moments. Donc, c'est pardon de dire ça, mais c'est pas un fou. Et il est, on va dire, dans un bon cas de figure.
Il est là dans le studio.
Mais je sais bien.
Pas de problème, effectivement. Vous êtes aussi, Mathieu de Villemorin, président de l'association Schizo Oui, faire face à la schizophrénie. Alors, Patrick Lemoine dit que vous n'êtes pas tout à fait dans cette situation-là, et en même temps vous êtes préoccupé de ceux qui sont touchés par ça.
Ce que j'entends de Monsieur Lemoine est très juste, parce que on me l'a souvent fait remarquer, et mon diagnostic a en effet souvent évolué. Et je suis resté sur le diagnostic justement de bouffée délirante ou de crise de délire. Mais si j'appartiens, disons, d'histoire et de cœur, entre guillemets, à la famille des schizophrènes, c'est parce que, justement, c'est l'éloignement à soi qui est la chose la plus douloureuse que j'ai pu vivre. J'ai essayé d'apprendre le langage des signes, la langue des signes d'ailleurs. Et je trouvais que l'handicap de la surdité était peut-être, sans l'avoir ressenti, mais en pensée, ce que pouvait vivre, ce que j'avais vécu dans ce que j'appelle l'éloignement à soi. Mmh. Et mon combat, c'est finalement, c'est pour ça que j'appartiens, disons, à la famille des schizophrènes, pour moi, c'est d'avoir reconquis ce territoire.
Mmh. Ben, vous nous parlerez de l'association juste après la musique.
S'il fallait qu'un de ces quatre, mon âme se disperse, bien avant qu'elle ne s'écarte du corps qui la berce, qu'un de ces quatre, qu'un de ces jours, la folie. S'il fallait qu'à cause d'elle, ton nom s'efface de ma mémoire, que si facilement ma cervelle se répète du matin au soir, s'il fallait qu'un jour se jure de ma folie.
La folie en quatre, chantée par Daniel Bélanger, c'était en 1996. S'il fallait un jour, ce jour de ma folie. Un grain de folie, source de sagesse, grand angle sur RCF. On en parle avec Sébastien Anthony, Mathieu de Villemorin et Patrick Lemoine.
RCF, grand angle, présenté par Christophe Hénin.
Oui, il faut être un peu fou hein, pour couper la musique dans une chanson comme ça, simplement. Être en suspens dans cette chanson, c'est le pari de Daniel Bélanger, une chanson de 1996. Mathieu de Villemorin, j'en reviens à votre association, dont je retrouve le nom, Schizo, oui, faire face à la schizophrénie.
Voilà, c'est un titre militant. On pose la question, est-ce que vous êtes schizo, avec un point d'interrogation. Et trois petits points, on répond oui, fermement, avec un point d'exclamation. Et c'est une association qui est née il y a déjà 21 ans et qui s'est faite tout de suite, disons, spécifique à cette pathologie. Et sont nées dans la foulée quasiment... d'autres, enfin les autres associations connues sur la bipolarité, Argos 2001, les TOC, AFTOC et peut-être aussi France Dépression pour les déprimés chroniques. Et nous essayons donc de défendre l'accès aux soins, la dignité du patient, essayer d'intervenir le plus rapidement possible pour éviter les séquelles, informer les jeunes dans les collèges ou les lycées, et aussi lutter lutter contre la stigmatisation dont sont victimes les schizophrènes. Mmh.
Patrick Lemoine, vous sentez aussi ça, que finalement il faut un diagnostic le plus précoce possible, j'imagine, mais qu'il y a encore de la sensibilisation à faire, aussi bien dans le grand public qu'auprès des médecins généralistes ?
Oui. Et notamment pendant les études de tous les médecins. Parce qu'il n'y a pas que les généralistes. Vous pouvez être ORL et vous retrouver en face d'un jeune de 18 ans qui est en train de faire son entrée dans la carrière schizophrénique. Et tout le monde devrait être plus au courant. Je pense que les enseignants aussi. Puisque, statistiquement, c'est l'année du bac que ça démarre, que ça se produit le plus souvent.
Une sorte de fragilité.
C'est entre 15 et 35 ans que c'est admis, mais dans l'expérience, on voit que c'est en terminale que ça se joue. Et quand c'est plus tard, très souvent, quand quelqu'un me dit « je suis en train de devenir fou », je lui dis « désolé, vous êtes un peu âgé, quoi. Vous avez passé 30 ans, il y a très
peu de chance. » C'est autre chose, alors.
Mais vous savez, on oublie toujours que chacun d'entre nous, chaque nuit, est fou, complètement fou, 4 ou 5 fois pendant 20 minutes. Puisque lorsque nous rêvons, nous avons des hallucinations, qui peuvent être visuelles, auditives, sensorielles, gustatives, etc., dans des scénarios complètement baroques, et nous y croyons dur comme fer. Et c'est typiquement ce qu'on appelle une bouffée délirante, à tel point que certains auteurs pensent que la bouffée délirante n'est rien d'autre qu'un rêve éveillé.
Et pour tout ça, alors pas pour soigner les rêves, hein, parce qu'il faut continuer de rêver, oui, je pense, mais pour tout ça, il y a maintenant des protocoles, des soins qui sont bien identifiés, des traitements possibles.
Certes, mais comment dire?
Selon l'échelon que vous avez décrit au début.
Oui, je vais être un peu provocateur, mais pense que les neuroleptiques, qu'on appelle maintenant antipsychotiques, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, puisque ça n'a jamais guéri aucune psychose, ont surtout soigné, pour commencer, les psychiatres et les infirmiers. Pourquoi ? Parce que, imaginez, vous êtes à Sainte-Anne, au Vinatier, à Sainte-Marguerite, à Marseille, enfin dans un grand hôpital, et pendant toute votre carrière, vous vivez dans la peur des coups. Parce que tous les jours, vous risquiez de prendre des coups. Et quand vous avez peur, vous ne pensez pas. Et du jour où ont été inventés ces médicaments à Sainte-Anne, toute l'agressivité est tombée. Et enfin, donc, les soignants ont pu ne plus avoir peur, ont pu commencer à penser, ont fait rentrer la psychanalyse, la psychothérapie, les thérapies comportementales, les neurosciences, ils ont pensé. C'est en ce sens que je dis que les médicaments neuroleptiques ont fait plus de bien, au fond, aux soignants qu'aux soignés. Évidemment, par contre-coup, ça a aidé les soignés, mais on est encore en attente d'un médicament qui réellement, j'irai pas jusqu'à guérir, et pourquoi pas, mais améliore autant la schizophrénie que pour, par exemple, le trouble bipolaire, ou pour les patients répondeurs, il y a quelqu'un qui répond au lithium, c'est pour la vie, il est définitivement guéri. Dans la schizophrénie, on n'a pas ça. Mmh. Alors il faut comprendre que la schizophrénie a beaucoup avancé sur le plan de la recherche, et qu'on sait maintenant que c'est ce qu'on appelle une fusée à 3 étages. À savoir que pour être schizophrène, il faut avoir ce qu'on appelle des gènes de vulnérabilité. On retrouve toujours quelqu'un dans la famille. Deuxièmement, il faut que pendant la grossesse, il y ait eu un contact avec un virus. Et troisièmement, éventuellement, mais pas toujours, une famille compliquée, qui est souvent d'ailleurs désarçonnée par un enfant qui n'est pas comme les autres. Mais il faut avoir ce gène de vulnérabilité et que pendant la grossesse, il y ait eu un virus.
Ce qui permet d'identifier les choses aussi peut-être plus facilement. Alors, Sébastien, Anthony, vous l'avez dit, hein, quand vous avez pensé à ce sujet, c'est que dans la folie c'est peut-être le contraire de la sagesse, ou peut-être parfois un grain de sagesse aussi, une source de sagesse.
En tout cas,
dans la dimension spirituelle, en tout cas.
Je crois pouvoir dire justement dans la dimension spirituelle et dans la Bible ou dans les expériences en tout cas mystiques, le fou dérange. On le dit depuis le début. Le fou dérange parce qu'il nous déplace, parce qu'il nous emmène ailleurs. Et à ce titre-là, Jésus a été catalogué comme fou. On lui a dit, il est fou, il a perdu la raison. Alors certes, c'est associé aussi à dans l'Évangile à de la possession. Donc c'est encore autre chose, mais en tout cas où la raison semble absente, ou en tout cas c'est le moyen que trouvent les détracteurs pour se protéger et ne pas entrer dans quelque chose qui les emmène trop loin ou ailleurs. Donc il y a quelque chose de fou finalement dans l'Évangile, il y a quelque chose de fou à devoir accepter peut-être d'être déplacé. Et ce n'est pas raisonnable, et là effectivement ça bouscule et ça dérange grandement. Et en ça, paradoxalement, c'est ça la sagesse, ou du moins qui conduit à la sagesse selon la Bible. Quelque chose d'autre que l'on ne connaît pas, mais qui est en tout cas quelque chose de, dans la foi, on peut le dire, quelque chose qui vient de Dieu et qui nous emmène vers lui.
Mais c'est comme ça qu'on peut comprendre alors la lettre aux Corinthiens de Saint Paul quand il dit Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissances. Ça, on l'accepte beaucoup plus, mais oui, considère comme une folie pour confondre les sages.
La folie de la croix, notamment, la folie de la croix, qu'est-ce que ça veut dire qu'un Dieu accepte de renverser toutes les valeurs en acceptant de mourir, par amour pour l'homme? C'est complètement ahurissant dans une société où on regarde plutôt Dieu comme quelqu'un de tout puissant qui attend beaucoup de choses de nous. Là, on renverse les valeurs, ça va jusqu'à se donner en nourriture, alors que dans toutes les religions, on donne à manger aux dieux d'une certaine manière en faisant des sacrifices. Et là, c'est Dieu qui se donne à manger. Enfin, il y a dans le corps eucharistique,
c'est complètement fou.
C'est complètement fou. On renverse tout et c'est dérangeant et ça gratte et ça cogne et ça embête finalement.
Patrick Lemoine, quelqu'un qui dérange, c'est peut-être la définition qu'on peut retenir, mais en même temps, dans une société comme la nôtre, alors est-ce que la norme s'impose plus qu'auparavant, ou au contraire, est-ce que chacun peut vivre avec ses troubles et ses façons de voir les choses? Comment vous voyez ce rapport entre la norme et...
Je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour en revenir à Jésus, si on lit attentivement les évangiles, on voit bien qu'il n'était pas fou. Et son contact était excellent, il était capable d'être au milieu des gens, d'aimer les hommes, d'aimer les femmes, d'aimer les enfants. Bref, c'était un homme qui était tout sauf fou. Mais je voudrais faire remarquer aussi que c'était un sacré psychiatre, puisque il a fait de l'ophtalmo, il a fait de la cancéro et il a fait de la psychiatrie. Et il a quand même envoyé les diables qui faisaient délirer les gens dans un troupeau de pourceaux. Donc on voit que il était très proche.
Il a une force mentale peut-être.
Absolument exceptionnelle, un charisme, une force mentale. En revanche, le psychiatre que je suis ne peut pas s'empêcher de penser, quitte à vous choquer, que sur la fin, il a eu quand même une conduite suicidaire assez impressionnante, d'un point de vue strictement clinique et non pas mystique.
Oui, c'est ce dont on vient finalement, hein, ouais, quand oui. On dit, mais c'est fou d'aller...
Il aurait parfaitement
pu... La folie de la croix, c'est bien ça.
Il aurait pu s'en sortir. Lorsque Pilate a proposé soit Barabbas, soit lui, eh bien... Avec le charisme, il maîtrisait l'art oratoire magnifiquement bien. Barabbas était une espèce de brute, un assassin, un voleur détesté de tout le monde. Et il s'est arrangé pour que Barabbas soit gracié à sa place. Donc on voit bien que là, je vous dis, d'un point de vue de psychiatre, c'est typiquement une conduite suicidaire qui succédait d'ailleurs à un épisode très dépressif sur le Mont des Oliviers, où il engueule les apôtres
qui s'endorment
alors que les pauvres, ils sont stressés et qu'ils ont des attaques de narcolepsie. Mais c'est une autre histoire.
Oui, Sébastien Anthony, on peut mettre ces lectures, là c'est une lecture très scientifique par rapport à une lecture
clinique,
spirituelle que vous faites.
Mais c'est pas contradictoire. Enfin, c'est pas contradictoire. Je pense que on peut tout à fait et heureusement associer des lectures psychanalytique, je sais pas comment il faut dire, par rapport à l'évangile. D'ailleurs, ça s'est fait et c'est pas nouveau, hein, comme manière de faire. Mais justement, ça donne des éclairages nouveaux. Faut pas en avoir spécialement peur, même si peut-être il faut avoir quelques clés et être un petit peu armé, parce que effectivement, ça peut être déstabilisant, pour un lecteur, on va dire, sans simple, quoi, mais sans condescendance aucune. Mais disons qu'il faut être un petit peu armé, quoi.
Voilà. Ce qui est important, Mathieu de Villemorin, vous l'avez dit aussi, c'est que pour tenir, il y avait les proches, la famille qui était important, et vous l'avez dit dans votre livre, la foi.
Oui, alors...
Parce que ce Jésus-Christ un peu fou, finalement, n'était pas loin.
C'est-à-dire que, puisque mes délires étaient mystiques, j'ai passé en effet beaucoup de temps à faire le tri entre ce qui appartenait à ma foi... et à ce qui appartenait au délire. Et j'avais un toubib qui m'avait dit « Moi, je m'occupe de votre propension à l'imaginaire. Vous avez vos médicaments aussi pour l'humeur et le moral. Et puis, pour ce qui est de Dieu, c'est pas mon métier, vous allez voir ce dont c'est le job. » Donc j'ai côtoyé longtemps une petite communauté de sœurs dominicaines de la rue Saint-Denis à Saint-Leu-Saint-Gilles et j'ai approfondi ma foi Voilà, tous les mercredis soirs, autour d'un repas, justement. Et petit à petit, j'ai pu faire cette distinction de ce que j'avais vécu et dont je me souvenais, complètement délirant. En effet, j'ai pris mes désirs pour des réalités, cette sorte d'altruisme. et je compare souvent cette crise, la première, comme les autres d'ailleurs, qui ont été mystiques aussi, comme la sécurité de la soupape de la cocotte minute. Mm-hmm. Finalement, c'est assez sain, à mon sens, hein, d'exploser, parce que ça permet de libérer cette pression,
énergie.
Ouais, cette énergie. Sinon, là, c'est ça, la cocotte elle-même qui aurait cassé ou explosé. On m'a parlé aussi de quelque chose de très qui me parlait beaucoup. C'était des symptômes agis. C'est pas cette lente délitation, disons, du moral et de soi-même et de ce renfermement. Mmh. C'est cette explosion, au contraire,
qui peut être libératoire, mais qu'il faut réussir à contrôler à un moment ou à un autre.
Ah, c'est-à-dire que la montée en puissance est extrêmement jouissive. On se prend en effet pour quelqu'un qui sait tout, qui connaît son devenir, qui sait rentrer chez les gens dans leur intériorité par un calcul, disons, une interprétation de ce qu'ils disent. Et la crise elle-même, bon, on se rend pas compte, mais c'est très très libératoire en effet. Mais c'est trop cher payé parce que on se retrouve complètement vidé, complètement dépossédé encore une fois. Et le retour à la vie, disons, est lent, laborieux.
Et difficile.
Terriblement souffrant. Oui.
Patrick Lemoine, ce rapprochement on sent bien qu'il y a une dimension mystique, pour dire vite, spirituelle peut-être aussi, dans ces moments où les troubles habitent la personne.
Oui, dans la bouffée délirante, les thèmes mystiques sont extrêmement fréquents. Et j'ai effectivement rencontré de très nombreux patients qui devenaient Jésus, qui sauvaient le monde et qui en jouissaient énormément. Et je crois que M. de Villemorin a raison de dire que c'est trop cher payé et qu'en effet, il faut être très prudent parce que on risque de perdre sa famille, son travail, son honneur. On peut faire 1000 folies. Et donc, même si c'est un moment extraordinaire d'élation de l'humeur où on est le maître du monde, puisqu'on est Dieu de toute façon. Donc il y a probablement rien de plus agréable que d'être Dieu. Mais évidemment, plus on est haut, plus on tombe de haut. Et plus c'est difficile après. Pour rebondir aussi sur ce que vous disiez
Allez-y.
À propos de la folie grain de sagesse, j'aime beaucoup cette formule. Et je pense qu'elle était très connue dès le Moyen-Âge, puisque les rois prenaient soin d'avoir toujours un fou auprès d'eux. Qui leur faisait 1000 folies et qui leur disait 1000 folies et qui était d'une insolence rare. Alors ils étaient pas fous, les fous du roi, mais
ils étaient habiles,
mais ils leur disaient des folies qui leur permettaient de comprendre quand eux-mêmes étaient un petit peu à côté de leur pompe royale et qu'ils déviaient. Mmh. Et c'était les seuls finalement qui arrivaient à leur dire des vérités en passant par des choses qui paraissaient farfelues, qui paraissaient bizarres, en tout cas très insolentes, et ils avaient le droit.
Mmh. Sébastien Anthony, ça se vit aussi dans une démarche de foi. Les saints sont souvent, ou pas souvent, mais en tout cas, ça arrive qu'on les considère comme un peu fous, quoi. On imagine François d'Assise, par exemple, il y en a d'autres.
Sans aller jusqu'au saint, aujourd'hui nous sommes le jour du Mardi Gras, donc du carnaval, qui est aussi quelque chose de cathartique au sens où,
on défouloir,
on passe dans tous les sens, on inverse les choses, les hommes se griment en femmes, les servantes deviennent des reines, etc. Et c'est l'Église a récupéré ça d'une certaine manière, enfin rendu liturgique cette affaire-là en disant voilà, il y a besoin d'un chaos, une forme de chaos finalement où un défouloir est possible, où tout semble renversé pour justement entrer en retrouver quelque chose que l'on considère juste, pas une norme, parce que la norme n'existe pas tellement dans l'évangile finalement, puisque l'évangile rejoint chacun là où il en est, mais quelque chose en tout cas qui remet debout, qui redonne une dignité, qui permet finalement de vivre en société. Mais le carnaval, en tout cas ce jour et aujourd'hui particulièrement, ouais, du Mardi Gras, correspond tout à fait à quelque chose en tout cas dont l'Église s'est emparée et en a fait quelque chose de juste. Alors le carême commence demain justement pour rectifier les choses.
Oui, c'était la journée des fous qui était très importante, où le maître devenait serviteur, où l'esclave devenait le maître. Et à Lyon, malheureusement, puisque je vous parle depuis Lyon, ouais, les choses ont mal tourné, puisqu'il y a eu une bousculade et il y a eu des dizaines de morts sur le pont de la Guillotière. Et ça a été ensuite interdit, d'autant plus que, selon ce que j'ai lu, un cardinal dans son carrosse s'était fait dire par la foule un certain nombre de vérités qu'il n'avait pas appréciées. Mais on est au Moyen-Âge.
Voilà, ça c'est de l'histoire ancienne.
Oui.
La musique de la leçon de piano Michael Niemann, c'était en 1993, un grain de folie, source de sagesse, grand angle sur RCF avec Sébastien Anthony, Mathieu de Villemorin et Patrick Lemoine.
RCF, grand angle, présenté par Christophe Hénin.
Alors, il s'agit pas de personnes qui correspondent aux maladies qu'on a pu évoquer depuis le début de l'émission, de ces troubles qu'on évoque depuis le début de l'émission, mais vous avez choisi dans les cahiers croire de donner la parole, de prendre un petit peu conseil auprès dans cet atelier spirituel auprès de l'Arche qui accueille des personnes handicapées mentales, Sébastien Anthony. Oui, parce qu'il y a des recettes là justement encore. C'est comme pour le malade de psychiatrie sur la personne fragile.
Alors de l'Arche et de son petit frère foi et lumière surtout qui est une émanation de l'Arche, une association en plus qui
fondée
vraiment
par Marie-Hélène Mathieu.
Fondée par Marie-Hélène Mathieu et par Jean Vanier, effectivement pour accompagner surtout les familles et finalement récapituler tout ce que l'on se dit depuis le début de l'émission, d'essayer en tout cas de donner une place dans la société, non pas d'évacuer la personne qui porte un handicap psychique, quel qu'il soit, mais de lui donner une place dans la société, une dignité à retrouver et même quelque chose à apprendre de lui. Et Foi et Lumière soutient les familles qui vivent qui vivent l'accompagnement de personnes souffrant de ce type de handicap. Et les personnes elles-mêmes. Et effectivement, on a voulu mettre à l'honneur tout ce travail que l'on voit peu finalement, mais qui travaille à la dignité et à la promotion de la personne.
On est souvent décontenancé face aux personnes plus fragiles, et en même temps, il y a une grande richesse spirituelle, une simplicité.
Alors oui, et alors encore une fois, faire attention à pas trop vite spiritualiser, parce que c'est une nouvelle difficile en tout cas à accueillir et à vivre. C'est une souffrance d'abord la maladie psychique. Voilà, pour la personne qui s'en rend compte, comme pour les personnes qui entourent, c'est difficile. Mais effectivement, voilà. Alors là, on se positionne en en croyant et en homme de foi, quelque chose de bon peut en sortir, et enfin quelque chose de bon peut naître et apparaître avec la cette dignité de la personne que l'on veut soigner en étant au plus près de l'Évangile et d'essayer de vivre l'Évangile. Et effectivement, l'Église s'y emploie et essaye de s'y employer, trop peu encore parce que ça fait peur, mais des associations existent, hein. Donc on parle de Foi et Lumière, mais il y a aussi l'association Toby, il y a d'autres associations comme ça qui essayent d'accueillir, d'accompagner des personnes en difficulté, mais encore trop peu, hélas.
Alors Mathieu de Villemorin, dans votre livre, j'ai envie de l'évoquer, hein, Les Lunatiques, Mon Séjour chez les Fous, si vous me permettez, vous avez trouvé plus faux que vous, c'est un petit peu ça, parce que vous l'avez dit, il y a eu des épisodes de bouffées délirantes, mais il y a aussi, ce que vous racontez dans le livre, d'autres moments où c'est plus un état de dépression, hein, qui vous saisit, et à ce moment-là, vous avez eu des moments de séjour dans différents établissements, et là, vous regardez les autres avec beaucoup d'humour, j'ai envie de dire aussi beaucoup de, pas presque de solidarité, non, c'est un peu ça.
Ah oui, avec beaucoup d'affection même.
Plus que ça, effectivement,
oui,
d'affection.
J'ai à chaque fois que j'ai eu des crises, hein, donc les quatre fois, j'ai été hospitalisé et je suis pas parti tout de suite.
Il
a fallu du temps. La transition entre la sortie et le retour à la vie civile, comme on pourrait dire, c'est encore une autre histoire. Mais quand on est dans les murs d'une institution, et j'ai été à Sainte-Anne d'ailleurs, on se sent quand même protégé. C'est vrai, ce sentiment de cocon, donc, et j'en avais besoin. En revanche, c'est vrai. J'ai ce don d'observation, où j'ai cette capacité de me souvenir et puis de l'avoir retranscrit. Mais il a fallu attendre
le filtre de la mémoire,
oui, absolument. Les hospitalisations donc ont suivi les crises. J'étais hospitalisé à Rio. Puis en France, à mon retour, ça c'était à Rueil-Malmaison, ensuite à Épinay-sur-Seine et après Sainte-Anne. J'ai fait plusieurs institutions donc. Et là, c'est vrai que c'est toute pathologie confondue. Si on n'a pas un peu de sens de l'humour, justement, c'est encore plus difficile à supporter. Et Madame Le Truite, qui a fondé l'association Schizoï, disait toujours, quand on entre dans la maladie, la schizophrénie, et qu'on n'a pas le sens de l'humour, il faut tâcher de l'acquérir
vite,
oui, voilà.
Patrick Lemoine, on sent que dans son parcours, qui est marqué par la souffrance, hein, Mathieu de Villemorin nous l'a dit, il a aussi, j'ai envie de dire, la chance d'avoir cette capacité relationnelle.
Absolument, c'est formidable. C'est formidable. Et il a raison, l'humour est probablement le médicament le plus puissant au monde. Et je pense que les psychiatres doivent utiliser aussi l'humour, pas l'humour moqueur, hein, l'humour empathique, l'humour qui permet de rire
complicité.
Ensemble. Absolument, oui, puisque ça fait partie de l'empathie. Et je crois que il nous démontre sans arrêt que cette bienveillance qu'il a aussi pour les malades plus malades que lui, qui n'ont pas ces capacités de communication, c'est absolument exceptionnel. C'est pour ça d'ailleurs que effectivement, je ne crois pas une seconde à sa schizophrénie, mais que je pense qu'il est une valeur humaine hors du commun qui lui permet justement de transcender, de sublimer sa souffrance. Et ça, on doit lui rendre hommage pour ça.
On parle de l'humour, il faudrait aussi parler du temps. Toutes ces choses-là sont longues.
Oui, pas forcément. Une bouffée délirante, sans lendemain, c'est l'affaire de 2 ou 3 semaines. Les gens guérissent.
D'accord.
Et puis on n'en parle plus. C'est terminé. Je vous disais, le rêve, c'est 20 minutes. Donc ça peut être des choses assez rapides. Effectivement, lorsqu'on est dans des processus de récidive, soit de trouble bipolaire, soit de schizophrénie, bien entendu, les choses, c'est à l'échelle d'une vie. Parce qu'un trouble bipolaire, une schizophrénie, c'est des maladies que pour le moment on ne guérit pas. On arrive à les stabiliser. Dans le trouble bipolaire, on arrive à les stabiliser parfaitement, dans les très bons cas, bien sûr. La schizophrénie, on stabilise imparfaitement, mais c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Droit d'asile », qui relate l'histoire de patients au Vinatier entre 1930 et 1945. Et c'est une époque où, lorsqu'on rentrait au Vinatier, c'était jamais de son plein gré, et on n'en ressortait jamais. Et on n'en ressortait même pas les pieds devant, puisque le cimetière était à l'intérieur des murs.
Qu'est-ce qu'on peut dire, Patrick Lemoine, qu'est-ce qu'on peut dire aux familles qui nous écoutent, peut-être que on n'a pas voulu, de toutes les façons, je le dis très clairement, choquer durant cette émission, mais si jamais c'est arrivé, bien c'est avec toutes mes excuses, parce que on en a parlé avec un peu d'humour et un peu de vivacité durant l'émission. Qu'est-ce qu'on peut dire aux familles qui sont elles aussi souffrent avec leurs proches?
Je pense, à un moment donné, j'étais chercheur à Stanford et je suis allé pendant un an chez Bettelheim. Et Bettelheim, pour moi, c'est finalement le plus mauvais psy qu'il ait jamais eu dans l'histoire, puisque toute sa vie, il a expliqué que l'autisme, c'était une forme de psychose, ce qui est faux, et qu'en plus, c'était dû à un désir de meurtre de la part des parents, ce qui était également faux. Et j'ai quand même vu des familles dont la mère s'était suicidée parce que le plus grand psychanalyste du monde avait dit que leur fils était malade par leur faute. Donc je crois que d'une part, il faut pas écouter ce que disent les psys de cette époque, notamment la psychanalyse, qui fait porter le chapeau aux parents. C'est totalement faux. Si un enfant est malade, c'est absolument en aucun cas la faute des parents. Et j'aime beaucoup un grand psychanalyste, psychiatre de Lyon qui s'appelle Jacques Hochmann, qui dit « On n'a jamais prouvé que les parents rendent malades les enfants. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les enfants rendent malades leurs parents. » Parce qu'effectivement, l'angoisse est telle, surtout si on est l'objet de la persécution de son enfant, que la souffrance est maximum. Donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est que c'est une épreuve, mais que s'ils veulent aider leur enfant ou leur frère ou leur conjoint, eh bien le lien familial est essentiel et qu'ils doivent le garder contre vents et marées. C'est un peu ce qu'on dit aussi quand quelqu'un rentre dans une secte. Garder le lien, quoi qu'il arrive, il faut toujours garder le lien. Et si le lien arrive à se poursuivre, un jour on en est récompensé et un jour justement le proche va s'améliorer. C'est complètement essentiel et surtout, si je ne disais qu'un mot, aucune culpabilité, vous n'y êtes pour rien.
Ça, on l'a vu aussi, Sébastien Anthony, c'était les fils qui devaient supporter l'épreuve de les fautes des pères, mais c'est bien dépassé, c'est écrit dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament malgré tout. Hein.
Voilà, il faut s'en délivrer.
C'est des choses dont il faut effectivement se délivrer. Qu'est-ce que vous avez découvert finalement avec votre équipe des Cahiers Croire et qui vous a vraiment surpris dans ce travail d'enquête autour de la folie?
L'extrême bienveillance. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Granger, oui, à Paris, donc un professeur de psychanalyse, psychiatrie ici à l'hôpital de Paris. Une extrême bienveillance, une manière de parler de ses patients et presque amicalement, et certainement pas justement avec dédain ou avec peur. Il y a quelque chose de très très beau là, en tout cas, qui a aboli la peur et la distance que la peur peut instaurer. Et de même que Monique Durand-Wood, qui a écrit Ajouter foi à la folie, un bouquin qui est paru il y a une quinzaine d'années maintenant, mais qui a accompagné des personnes justement en hôpital psychiatrique, et là aussi faire tomber cette peur et y trouver une force en disant combien l'Église pourrait trouver justement dans des comportements ou des attitudes qui étonnent, qui inquiètent, justement de quoi se remettre en question, accepter de se remettre en question, de faire exploser finalement nos carcans et nos idées préconçues ou bien pensantes pour faire donner du souffle, donner de la légèreté. Alors encore une fois, il y a beaucoup de souffrance, mais et on l'a dit depuis le début de l'émission et je trouve ça très bon, il y a aussi de l'humour et quelque chose d'extrêmement d'humain et de très agréable finalement à apprendre et à recevoir. Et c'est ce que disait notamment Monique Durand-Wood, combien son expérience en hôpital psy d'accompagnement de personnes l'avait nourri de ce côté-là et délivré aussi.
Mmh. Un tout dernier mot, Mathieu Duvulmorin, mais vraiment en 10 secondes.
Alors, oui, bienveillance et puis aussi le retour progressif à la vie. La vie, c'est merveilleux et même si on souffre, on peut retrouver cet état de se sentir vivant.
Voilà, se retrouver soi-même et avec les autres. Merci à tous les trois pour cette émission Un grain de folie, source de sagesse. Sébastien Anthony, Mathieu de Villemorin et Patrick Lemoine. Alors pour prolonger l'émission, bien sûr, il n'y a qu'à les croire, hein, c'est le numéro de mars-avril, La folie, une étrange sagesse. Et puis les lunatiques, le livre de Mathieu de Villemorin, paru chez Bayard. Histoire de la folie avant la psychiatrie, Patrick Lemoine et Boris Cyrulnik, paru chez Odile Jacob, tout comme La folle histoire des idées folles. Patrick Lemoine, aussi votre prochain livre, rappelez-nous juste le titre et la date de sortie.
Ce sera La santé psychique de ceux qui ont changé le monde, le 15 mai chez Odile Jacob.
Chez Odile Jacob. Merci à Pierre Samanos qui était à la régie. L'émission, vous la retrouvez sur le site www.rcf.fr. Vous pouvez la podcaster pour une écoute mobile. Vous pouvez la réécouter sur votre ordinateur. Et on se retrouve la semaine prochaine.